Bonjour, donc aux spectateurs de l'Institut des Libertés. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Monsieur Jean-Frédéric Poisson, avec qui nous avions eu une conversation il y a un peu plus d'un an, je crois.
C'est ça.
Fort intéressante, parce que dans le fond, on avait essayé de réfléchir ensemble un petit peu sur les nécessaires changements constitutionnels qui devaient arriver en France. Et le but de notre discussion, on était arrivé à une conclusion un peu similaire, c'était de dire dans le fond qu'on a des très graves problèmes qui se posent devant nous. Il n'y a pas d'autre solution que de poser la question souverain, c'est-à-dire le référendum. C'est-à-dire, bon, on en était. On va en reparler d'ailleurs, mais. Parce que c'est. Et depuis qu'on a eu cette conversation, il s'est passé un phénomène curieux. C'est quand même qu'il y a quelqu'un qui est sorti dans le paysage politique, qui est en train un peu de tout bouleverser. Et puisque vous avez, je crois, vous intéressé aux idées, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans Zemmour, et je vais vous demander votre avis là-dessus, parce que c'est de lui dont on parle, bien sûr. C'est ce que disaient les Grecs anciens, c'est que dans le fond, celui qui dominait le logos dominait la politique. Et ce qui s'est passé avec Zemmour, c'est que d'un seul coup, il a pris le contrôle du logos et que les autres savent plus quoi dire. Donc pendant 40 ans, on s'est fait imposer un logos complètement imbécile par tous ces gens de gauche, vous savez, qui étaient dans le fond une façon de mentir. Ils mentaient tout en sachant qu'ils mentaient, mais on ne pouvait pas leur dire qu'ils mentaient. Et d'un seul coup, il y a ce gars qui arrive, et on retrouve, si vous voulez, la puissance libératoire de la vérité. Et c'est un bouleversement, mais on le sent partout dans les entrailles de la France. Alors j'aimerais que vous, parce que vous êtes chrétien, ce qui n'est pas une...
C'est pas un scoop.
Et quelque part, je crois que les papes ont beaucoup parlé de le pouvoir libératoire de la vérité.
Oui, l'évangile avant eux, mais...
L'évangile avant eux, donc si vous voulez... Quel effet ça vous fait de voir la vérité réapparaître comme ça sur la scène politique dans un pays qui vivait dans le mensonge?
C'est d'abord extrêmement rafraîchissant parce que
on
finissait par désespérer d'une certaine manière en se disant mais est-ce qu'un jour les Français vont se réveiller, et particulièrement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron,
oui,
parce que je me souviens de quelques réunions publiques que nous animions à l'époque où les Amoureux de la France existaient, mon cher Charles.
On a eu quelques déceptions tous ensemble.
C'est exact, partagé. Et nous faisions de belles réunions publiques. Et il y avait une attente, déjà, exprimée de la part de nombreux Français, particulièrement de ceux qui assistaient à ces réunions. Et je leur disais, mais attendez voir, on est en train de voter la censure au Parlement sur les réseaux sociaux. On est en train de vous rogner vos libertés... simplement matériel par le biais des pouvoirs d'achat, des allocations, etc. Et alors petit à petit, on réduit votre espace de respiration et de capacité d'action, et vous allez tolérer ça jusqu'à quand? C'est ça qui ça m'étonnait beaucoup, cette affaire de pas. Ce peuple qui est rebelle, qui est gaulois, qui est capable d'être. Était comme dans une espèce d'aphasie ou d'atonie. Et là, il récupère quelqu'un, Éric Zemmour en l'occurrence, qui leur dit des choses que beaucoup de Français. Avaient envie d'entendre parce qu'ils les pensent eux-mêmes.
Et parce qu'ils les voient.
Et parce qu'ils les voient et qu'ils les vivent, et ils les pensent parce qu'ils les vivent, évidemment, c'est leur quotidien. Quelqu'un leur dire « Il n'est pas normal que la France soit dépossédée de ce qu'elle est et de ce qu'elle a.
Oui. »
Et il faut résister à ça, il faut combattre ça, il faut restaurer, reprendre possession de soi, en quelque sorte. Et les gens sont heureux d'entendre ça, parce que, encore une fois, ça correspond à leur propre vision de leur vie quotidienne et de notre pays. Et ça se fait dans la bouche de quelqu'un qui, visiblement, n'a pas peur de le dire, n'a pas peur d'assumer, ne s'en excuse pas. Et même si on peut de temps en temps parler de la forme qui est un peu sèche de temps en temps et que...
Et n'a pas peur tout court.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que donc le fait qu'il n'ait pas peur qu'il dise la vérité, ça donne confiance dans le fait que s'il arrive aux affaires, ce qu'à Dieu ne plaise, lui, il le fera.
Lui, il le fera.
Alors que les autres commencent à devoir dire la même chose que lui. C'est ce que vous évoquiez il y a un instant sur la maîtrise du logos. Alors on voit... des conversions très spectaculaires de...
Et dont on craint qu'elles ne soient pas durables.
Écoutez, moi qui suis un converti, comme vous savez, il y a déjà longtemps, je sais que ça existe, les conversions.
Oui.
Et qu'elles peuvent être radicales, efficaces, durables, tout ça, je le sais. Donc je fais attention à ce que je dis, je ne veux pas juger mon prochain, parce que je n'ai pas cette capacité ni cette qualité. Mais...
Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé.
Exactement. En prudence, cependant... parce que je les connais par ailleurs, tout cela aussi.
Oui, bien sûr.
Les compagnons d'armes et de bagarres, parfois... les plus européistes de tous qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faut des moratoires sur l'immigration, qu'il faut sortir de la CEDH, qu'il faut machin, etc. on a envie de leur dire, mais que n'avez-vous dit ça
Et que n'avez-vous fait ça
Et que n'avez-vous fait ça et que n'avez-vous félicité ceux qui le disaient il y a 10 ans et que vous considérez comme des abrutis, parce que c'était comme ça, c'était ça
mais
aussi.
Je le sais bien.
Donc tout ça, voilà, ça fait un ensemble dont on comprend pourquoi il a comme résultante le fait que un homme qui n'était pas sur la scène politique il y a encore 6 mois récupère maintenant, allez, on va dire autour de 15% d'intention de vote. C'est vrai sur une forte proportion de Français interrogés qui ne savent pas encore très bien s'ils iront voter, donc tout ça n'a pas la solidité.
La grande question, c'est va-t-il ramener les abstentionnistes ?
C'est ça. Ça va être une partie aussi de notre conversation ultérieure, je pense, mais voilà, donc tout ça a du sens parce que ça rentre en résonance parfaite avec l'opinion qui a besoin de vérité, de force, de courage et de constance.
Et qui attendait ça. Dans le fond, les Français attendaient quelque part qu'on leur parle de la France.
Oui. Et j'ajoute, si je peux me permettre cette incise, il faut leur parler de la France, mais il faut leur parler d'eux. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques jours dans les colonnes de la presse, parler de civilisation, de patrimoine, de culture, d'immigration, d'identité, de langue française, d'histoire, impeccable, on fonce. Mais il faut aussi parler des fragilités, de la précarité, il faut aussi prendre en compte tous les problèmes qui ne seront pas réglés si, par ailleurs, on arrivait à régler toutes ces questions qui sont identitaires, culturelles, etc. Donc, il faut vraiment avancer
Comme toujours, il faut avancer sur ces deux jambes. Mais en ce qui est certain, c'est qu'en aucun cas, on ne peut traiter la précarité avec un État qui est à 61% du PIB. Donc, la première des choses, si vous voulez, c'est que ce que j'essaie de dire aux gens qui ont la gentillesse de m'écouter, je leur dis, le boulot de Zemmour va être très dur parce qu'il doit faire croître l'État nécessaire et décroître l'État qui ne l'est pas.
C'est ça.
Et c'est ça va être un boulot d'enfer, parce l'État doit faire mieux. Par exemple, la justice, c'est un scandale, ce qui se passe dans la justice aujourd'hui. J'écoute les histoires de la justice, c'est inimaginable. La diplomatie, l'armée et la police, c'est un scandale. Les domaines régaliens sont traités par-dessous la jambe. Et puis, vous avez, j'ai reçu ici, dans ce fauteuil, Charles Pratt, qui vous parle maintenant de 100 milliards entre la fraude sociale, la fraude... Mais enfin, je veux dire, 100 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent.
L'argent, c'est...
100 milliards. Vous pouvez en traiter de la précarité avec 100 milliards. Hein.
Vous savez, je me suis livré...
C'est du vol.
Je me suis livré un petit exercice. Oui. Un jour, parce que j'entendais des gens comme ça manipuler des milliards à télévision, je me demande si c'était pas Bruno Le Maire. Qui faisait ça avec une facilité absolument déconcertante, si vous voulez. Puis alors, je me suis dit, mais en fait, 1 milliard, est-ce que je suis sûr de savoir ce que c'est qu'un milliard ?
Je comprends pas très bien.
Alors, j'ai fait un calcul simple. On sait ce que c'est qu'une seconde.
Oui.
1 million de secondes, c'est 31 jours. Non, 1 million de secondes, c'est 11 jours.
11 jours.
1 milliard de secondes, c'est 31 ans.
Donc
quand on parle d'un milliard d'euros, vous voyez
l'écart.
Dans quelle proportion on est. On parle d'une seconde, 31 ans. Donc, 1 milliard, c'est
beaucoup.
C'est énormément.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, on se met à parler de trillions. Parce qu'il y a 4-5 ans encore, quand on était aux États-Unis, on parlait de milliards de dollars de déficit. Maintenant, on parle de 1 000 milliards de déficit. On a fait un gros progrès.
Oui, c'est ça.
Et donc, mais 1 000 milliards, je ne sais même pas ce que c'est.
Non,
pourtant,
mais
je suis un financier, je n'arrive même plus à comprendre de quoi on parle.
C'est inimaginable, ça dépasse l'entendement, justement. Mais c'est justement parce que ça dépasse l'entendement que c'est grave. Et pour revenir à votre remarque de tout à l'heure, c'est exactement, je pense, l'enjeu. Mais ça indique aussi, comme une espèce de corollaire ou de conséquence, que si jamais, ou plutôt lorsqu'on aura réussi à faire reculer l'État qui n'est pas nécessaire au profit de celui qui l'est, et renforcer celui qui l'est, alors ça veut dire qu'il y a toute une partie de ce que fait l'État aujourd'hui, parce qu'il fait, même dans ce qu'il n'est pas nécessaire, il y a des choses qu'il ne fait pas si mal que ça, faute de mieux. Mmh. Où est le mieux ? Mais le mieux, c'est dans des corps intermédiaires.
Ouais.
C'est dans le tissu associatif. Et alors ça nous éloigne un peu de notre sujet,
mais
le plus grand reproche que je fais à Emmanuel Macron dans la gestion de la crise sanitaire, qu'est-ce que c'est ?
C'est d'avoir démonétisé les médecins.
D'abord, et ensuite de n'avoir jamais fait appel ni aux communes, ni au tissu associatif, ni à la générosité des gens. Et ça, moi qui ai vécu la canicule de 2006 comme maire, à Rambouillet, elle était moins forte que celle de 2003, mais quand même tout de même assez vive. Donc, et puis en plus, on avait l'expérience de 3 ans avant, donc on a pris soin de nos anciens qui étaient un peu isolés. Comment est-ce qu'on a fait ça en plein mois d'août ? Mais j'ai demandé aux associations locales de me dire qui pouvait rendre visite à un tel, s'occuper d'un tel, etc. Et ça a fonctionné. Donc cette espèce de folie de dire, bon, puisque le peuple ne va pas le faire, donc moi l'État, je le fais. Et voilà pourquoi vous en êtes dans la situation où on est aujourd'hui. On aurait fait appel au tissu associatif, on aurait pu tester massivement, on aurait pu demander aux gens qui étaient contaminés de s'isoler chez eux, mais s'isoler, ça voulait pas dire être seul, puisque par hypothèse ou par construction, on aurait trouvé
des gens qui étaient
dans le tissu associatif, des gens pour les accompagner, ce que les maires font tous les jours dans leur centre d'action sociale, et des tas d'agents de l'État qui le font tous les jours aussi. C'est ça qui est donc le recul de l'État, et c'est dans ce sens que je parle aussi de la prise en compte des fragilités, ça ne se fait que avec le concours des acteurs et des corps intermédiaires, donc du peuple français. C'est la solidarité du peuple qui joue.
Bien sûr.
Pas toute seule, mais ça s'appuie.
En tout cas, il faut l'aider. Mais j'ai reçu ici, encore il y a quelques jours, un homme qui s'appelait Denis Père, vous savez, qui est...
Je vois très bien.
Et alors, il me racontait que dans le monde des hommes d'affaires, il y avait un système qui avait été mis en place pour les gens qui étaient des grands échoués dans la vie, vous savez, qui se retrouvent à 27 ans sans boulot, sans rien, etc. Donc il y avait les patrons qui les prenaient, qui les aidaient à se former, etc. Et ils avaient un taux de réussite de 70%, ce qui était absolument gigantesque.
C'est beaucoup.
Donc, et il y avait un référent dans l'affaire et un référent dans la personne qui confiait le. Il y avait donc deux référents qui s'occupaient du gars et donc ça marchait très bien. L'État a vu ça, il s'est dit ben je vais faire pareil, sauf qu'eux, ils ont zéro de réussite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la même chose si vous êtes un patron. Que vous voyez un gars que vous connaissez vaguement, vous connaissez la famille, que vous vous dites, ben oui, il est son fils, il ne va pas bien, je vais essayer de le prendre et je vais l'accompagner, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Ou si c'est un fonctionnaire qui est nommé, qui sera nommé ailleurs dans 3 ans. Quoi. Donc cette espèce d'affection sociétatiste qui crée une nation,
c'est ça.
Eh ben, on n'en fait plus jamais appel. Et c'est quand même très dommage, quoi.
C'est ça
qui a tué le Liban, vous savez, parce que le Liban, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas s'est mis à faire ça, les chiites sont mis à faire ça, et du coup, ben, ils ont pris tout levier de pouvoir, parce que les chrétiens ne le faisaient plus, et les sunnites le faisaient plus.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est en même temps, ça désagrège le tissu social, et c'est, pour dire un sujet qui est un peu inquiétant, ça peut nous amener à la guerre civile, si on ne fait pas attention.
Certainement. Je partirai sans doute pour le Liban quelques jours au mois de décembre, où je reviendrai vous raconter ce que j'ai vu. Si ça vous intéresse, c'est terrible ce qui s'y passe.
Je serais très content de vous interviewer au retour, parce que c'est d'abord un pays qui m'est cher. Moi, je suis un peu plus haut, vous savez, dans les Alaouites, là-haut, à Alep. Mais enfin, c'était un pays admirable. Et voilà, moi, un pays qui, en l'espace de 40 ans, est passé de la Suisse de l'Asie à...
Une espèce de chaos indescriptible.
Oui,
c'est terrible.
C'est terrible. Ce qui est important, parce que ça montre que même les pays les plus sophistiqués, les plus civilisés, etc., peuvent... tout à fait tombé en quenouille, quoi. C'est regardez l'Argentine, regardez, si on ne fait pas attention, on peut tout à fait...
Ah mais il y a une hypothèse à faire, qui d'ailleurs vaut aussi pour le Liban. Alors les rappels à l'ordre du président Macron à la classe politique libanaise sont absolument malvenus et déplacés de mon point de vue, mais enfin c'est comme ça, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il a tort pour autant. Et la classe dirigeante libanaise, à commencer par les chrétiens maronites, ont des responsabilités écrasantes
pour la situation
aujourd'hui, c'est évident. Après, c'est dans un contexte qui n'est pas non plus facile. Donc tout ça.
Non, c'était...
Mais là, la faute d'anticipation, avec l'installation d'une forme d'égoïsme ou de rivalité interne entre des gens qui auraient dû continuer à s'entraider, quoi qu'il arrive, d'une certaine
façon... Tout le monde cherche à piller l'État, capturer l'État pour pouvoir le mieux le piller.
C'est ça. Eh bien voilà, on en arrive à une situation qui est... Alors, toute proportion gardée, parce que on est quand même... On n'est quand même pas dans la situation du Liban où désormais 2/3 des habitants du pays sont des musulmans et 1/3 de chrétiens, que la proportion était quasiment inverse après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas tout à fait la même situation. Mais il y a un certain nombre de parallèles, en particulier de cette oligarchie. Je ne sais plus de qui est la formule. La France est une monarchie républicaine dirigée par une oligarchie discrète. J'aime bien cette formule, je trouve qu'elle résume assez bien la situation. L'oligarchie d'ailleurs est de moins en moins discrète en réalité.
Mais surtout, elle a admis d'être visible avec l'élection de Macron. Parce qu'avant ça, on disait aux gars de l'oligarchie, toi tu seras à gauche, toi tu seras à droite. Et puis ils se présentaient, on disait, regardez, on a une vraie démocratie, on a une opposition, une droite et une gauche. Mais avec Macron, on a fusionné les deux. Et là, l'oligarchie est apparue en plein jour.
Oui, ça se voit, c'est ça.
Ça se voit tout le temps.
Ça se voit, absolument.
Ça crève les yeux.
Mais c'est probablement ce qui nous. Enfin, c'est une des. Cette captation, cette confiscation est certainement une des causes de notre malheur, c'est certain. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faudra évidemment réformer.
Mais vous savez, ici, on travaille beaucoup sur une notion qui a été mise à jour par un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle, qui est libanais d'ailleurs, qui s'appelle Nassim Taleb. Vous savez, qui a mis à jour cette notion de fragilité et d'antifragilité. Et qui est une notion assez brillante, c'est qui dit, prenez le commerce international, par exemple. Je suis un libéral, hein, donc en principe, je suis favorable au développement du commerce international. Bon, ça vous fait une économie qui est de plus en plus rentable. Mais vous arrivez à un moment qui est difficile à déterminer, où vous êtes tellement efficient que vous devenez fragile. C'est-à-dire, vous avez un moment où d'un seul coup, bah, si le semi-conducteur qui est fait à Taïwan n'arrête pas en temps, bah, vos usines ferment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, donc, gouverner, c'est en quelque sorte choisir sans arrêt entre une solution de recherche de la fragilité, c'est-à-dire de la prospérité, et une recherche de antifragilité, c'est-à-dire de solidité. Et c'est pas, et ça, c'est pas ce qu'un businessman fait, c'est pas son boulot, mais c'est le rôle du politique. C'est de balancer la fragilité et l'antifragilité pour que la nation reste pérenne, quoi. Est-ce que je veux dire? C'est,
très bien. Bien sûr.
Et je crois que, justement, des hommes comme Mac, etc., n'ont jamais compris que sa mondialisation heureuse s'amenait à une fragilisation extraordinaire des systèmes économiques qui, certes, devenaient de plus en plus prospères pour les actionnaires, mais de plus en plus fragiles pour les gens qui vivaient au travers de ces systèmes.
Je partage ça complètement. J'ajouterais que, le modèle ricardien qui a servi de base de réflexion à la mondialisation, pour nos auditeurs,
1830.
Comment dire, c'est je fabrique des pneus et des parpaings, mais si je fabrique plus que des pneus parce que je suis meilleur en pneus qu'en parpaings et que le pays d'en face qui lui est meilleur en parpaings ne fabrique que des parpaings, je vais fabriquer des pneus pour son compte et pour le mien et lui fera pareil que les parpaings. Et tout le monde sera content. Alors bon, ça marche pas si bien que ça, d'abord, en général, parce que ça suppose une équilibration, on sait pas d'où elle sort, mais surtout, pour des pays comme les nôtres, qui maîtrisons à peu près l'intégralité des savoir-faire, c'est un crime. Et je reviens à cette thématique de la dépossession que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, la mondialisation, à cause de son inspiration de type ricardien, qui s'enracine aussi dans ce que vous venez de dire, en disant, bon, on va se débarrasser de ce qu'on veut plus, alors toute l'industrie, de ce qui coûte
cher, de ce que quelqu'un
d'autre fait moins cher que nous. Moins cher que nous, c'est à voir, parce que quand on met tous les coûts indirects en réalité, c'est-à-dire il y a le produit qu'on achète et qu'on paye à la caisse.
Enfin, moins cher que nous pour le type qui le fait, pas automatiquement pour la société.
Ben voilà, c'est ça, parce qu'il y a quand même un certain nombre de coûts induits, de destruction de savoir-faire, de destruction de pyramide des âges dans les usines, etc.
Regardez le nucléaire français, on l'a détruit.
Oui.
Il avait valu 40 ans pour monter des ingénieurs, pour monter des gars. Et depuis Mitterrand, on a foutu tout ça à la poubelle.
C'est pour ça.
Il n'y en a plus d'ingénieurs nucléaires aujourd'hui.
Non, mais il y a beaucoup, malheureusement, d'autres filières dont on n'en a plus non plus. C'est pour ça que la réindustrialisation, qui est un des thèmes de notre ami Éric Zemmour, et que je partage évidemment pleinement, moi qui suis un ancien de la métallurgie, je pense qu'elle nécessite. Enfin, c'est une opération de long terme, c'est-à-dire il faut trouver le moyen. Et je pense qu'en dehors de la négociation, je ne vois pas comment, en tout cas de l'entente, plus qu'une négociation, un accord, mais solide, pour faire en sorte que tous les acteurs qui s'engageraient dans cette opération le fassent durablement, parce que voilà un sujet sur lequel, si vous coupez la corde ou si vous arrêtez la machine, c'est comme les hauts fourneaux. Enfin,
oui, vous pouvez pas les arrêter.
C'est compliqué. En tout cas, avant que ça redémarre, ça prend un temps.
Voilà. Non, mais surtout, si vous voulez, moi j'essaye. J'ai écrit un ou deux articles là-dessus. Donc j'espère qu'Eric les a lus, mais je sais pas. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire grosso modo ce qui vous reste au milieu quand vous avez tout dépensé, vous êtes une comptabilité de cuisinière, vous savez ce qui reste au milieu, est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Angleterre. Donc la raison pour laquelle on s'est désindustrialisé, c'est que si vous aviez une usine à faire, elle était deux fois plus facile à faire en Allemagne ou en Angleterre qu'en France. Donc le vrai problème, c'est que les entreprises françaises ne gagnent pas assez d'argent.
C'est ça.
Donc parce qu'on leur a collé, par exemple, des impôts sur le travail, mais à quel point faut-il être bête pour imposer le travail?
On a imposé
le travail de façon gigantesque. Alors que les Allemands, ils ont baissé le coût du travail pendant leur réforme à la fin des années 1990. Là. Et du coup, ils sont redevenus compétitifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de... Derrière cette désindustrialisation, là, il y a l'idée complètement farfelue, qui est très française à mon avis, qui est que le travail est une malédiction.
Oui,
et donc plus on taxe le travail... Plus on réduit la malédiction.
C'est une très mauvaise.
C'est bizarre, hein?
Très mauvaise. Je sais d'où ça vient.
Dites-moi.
Ah, ça vient de la Genèse. ou plutôt d'une lecture faussée de la Genèse, puisque on pense que le travail est la conséquence du péché originel. En réalité, c'est la peine liée au travail qui est la conséquence du péché originel, oui. Pas le travail. Non. Car lorsque, dans cette tradition judéo-chrétienne, lorsque Adam est créé, il est bien appelé à participer lui aussi à la création. Comment ? Par le travail.
Par le travail.
Il s'agit de dominer la terre et de la soumettre. Donc il ne va pas le faire en dormant, il faut qu'il le fasse en travaillant. Ce que change la faute originelle, c'est la peine. C'est pas la naissance du travail, mais on croit.
C'est-à-dire qu'on va, se mettre à faire des travaux emmerdants, quoi.
On va, oui, on va en souffrir, tout simplement.
Oui.
Mais le travail fait partie de la vocation de l'homme. Donc je pense qu'une mauvaise lecture du texte sacré de la Genèse participe à cette de distance horrible par rapport au travail.
C'est pas du tout ce qu'on a dans les pays anglo-saxons ou un peu partout, dans le fond. Moi, je considère qu'une bénédiction dans la vie, c'est de faire un travail qui vous intéresse et qui est pas pénible.
Ah, sûrement.
C'est que quand je vois qu'on met des grands profs de médecine à la retraite à 60 balais et qu'ils vont ensuite enseigner pendant 20 ans aux États-Unis, je me dis, on est fou.
Oui.
On est fou.
Oui, il y a quelque chose de. Mais là encore, une forme de suite de décision qui nous met à genoux et dont il faut impérativement sortir. Ça rejoint notre conversation.
Et je crois, pour revenir au début de notre discussion, que la façon de permettre la réindustrialisation de la France, c'est de foutre bien la paix aux entrepreneurs. C'est-à-dire que le type, c'est lui qui prend sa décision, celui qui prend son risque. S'il fait un mauvais investissement, eh ben il est ruiné, c'est bien triste, mon pauvre ami. Mais je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas subventionner. Parce que si vous subventionnez, vous allez attirer tous les suceurs de sang habituels qui, dès que la subvention s'arrêtera, s'arrêteront.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec la fin de la perfusion au Covid. Hein.
Exactement. Ça va être un bain de sang là. Hein.
Bah, ça va être
faire un mal fou et on va se rendre compte que.
Compliqué.
Donc ce qu'on est en train de dire tous les deux, c'est que dans le fond, il faudrait que l'État fasse ce qu'il doit faire, et que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Sire, surtout ne faites rien. Vous connaissez l'anecdote à Saint-Malo, Louis XIV qui disait aux impérateurs comment je peux vous aider. Et ils avaient dit surtout vous nous avez assez aidés.
C'est ça.
J'ai pas besoin qu'un haut fonctionnaire de Bercy vienne m'expliquer comment gérer ma boîte.
Non.
Et j'ai pas besoin de lui demander son avis, ni de lui demander une subvention. J'ai jamais accepté une subvention de ma vie, de qui que ce soit et où que ce soit. Et c'est la noblesse de l'entrepreneur. L'entrepreneur, quelque part, c'est celui qui est le paratonnerre à risque. Vous voyez, quand le risque foudroie, vous avez le capital, le travail. Puis l'entrepreneur qui met son capital en risque, et s'il échoue, il est mort. Et si j'essaye de faire une analyse politique là-dessus, je fais l'analyse suivante, je dis écoutez, dans un pays, vous avez le peuple, vous avez l'administration de l'État, et vous avez la classe politique, dont le rôle est d'être foudroyé si elle se trompe. Je crois que c'est ça, hein, je crois que vous êtes d'accord.
Ça devrait.
Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique, et que nous n'avons plus de classe politique, il n'y a plus personne à foudroyer. Ce que dit ce bon Zemmour, c'est « je vais faire ça ». Et ce que disait Mme Thatcher, elle disait « écoutez, je suis un gouvernement de conviction, je ne suis pas un gouvernement de consensus, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me virez dans 4 ans, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans, ou l'année prochaine ». Et non, cette recherche désespérée du consensus pour être réélu, ce qui fait qu'ils sont toujours battus, il faut qu'un septennat, d'ailleurs, enfin, qu'un quinquennat, je trouve ça stupéfiant, de la part d'hommes, ça veut dire qu'ils n'ont aucune conviction.
Je pense que ça fait partie aussi des causes pour lesquelles, enfin des causes qui expliquent, pardon, le succès actuel de la candidature Zemmour. C'est que on entend, même si c'est pas aussi explicite que ça, mais ça revient à ce que vous dites, on entend que, effectivement, dans l'hypothèse où il aurait échoué à faire ce qu'il fait ou qu'il aurait oublié ses engagements ou sa parole, la conséquence, elle est immédiatement connue. D'ailleurs, le recours au référendum invite à considérer, avec quelques réserves, mais plutôt dans cette logique-là, on entend, bah, très bien, s'il échoue, il partira. Et c'est rassurant pour le... Il y a quelque chose de... Ok, le contrat est clair.
Oui.
Le contrat est clair.
Et je crois que le contrat a été rompu avec la France quand on a eu les cohabitations. Vous savez, quand...
Là, je me souviens très bien, oui.
Quand d'un seul coup, Mitterrand s'est mis à gouverner avec Chirac, et puis Chirac avec, je sais plus, avec Jospin et tout. C'est pas normal qu'il y ait cette espèce de magma qui se passe, si vous voulez. Donc.
Ben ça s'est fait, cette cohabitation, vous vous en souvenez, c'était fait. Le premier qu'il est évoqué, c'est le fameux. Ça va rappeler des souvenirs à nos auditeurs les plus anciens, et peut-être quelques informations aux plus jeunes. Discours de Vesoul. Valéry Giscard d'Estaing, entre deux tours, législatif 78.
Mais c'est ça.
Le premier tour avait été une catastrophe pour la droite qui était à l'époque en place, RPR-UDF. Et entre les deux tours, au milieu de la semaine, Giscard d'Estaing, depuis Vesoul, dit « Si jamais la gauche l'emporte dimanche prochain aux législatives, je m'installe à Rambouillet et je laisserai gouverner le Premier ministre. » Il est l'inventeur pratique de la cohabitation. Je fais partie de ceux qui se demandent encore aujourd'hui, évidemment, on peut faire du chronique, ça fait plaisir, ça sert à rien, mais c'est toujours bon. Que se passe-t-il si en 86, tous les premiers ministres de droite issus de l'initiative qu'il a portée au pouvoir, la majorité parlementaire, j'entends la droite, que se passe-t-il s'ils refusent tous en rafale de constituer un gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Le président est obligé de partir.
Mais oui, et se soumettre ou se démettre, c'était la gauche. Hein.
Le président est obligé de partir.
Oui, c'est ce qu'il aurait dû
et
faire.
Et donc en acceptant, en croyant qu'il était plus fort que chef de l'État, ce qui est une vue de l'esprit quand on est dans la Constitution française, je pense que la majorité de l'époque s'est trompée.
C'est Chirac.
Exactement.
C'est Chirac qui ensuite n'a cessé de les accumuler.
Et tous les autres, parce que je n'ai pas senti une grande résistance non plus au fait de... Enfin, il y avait très très peu de voix, j'avais regardé ça il n'y a pas très longtemps. Justement, quand je préparais le livre que j'étais venu présenter chez vous il y a un an, j'avais regardé ça d'assez loin, je crois qu'il y avait quelques voix qui avaient proposé effectivement qu'il n'y ait pas... Que simplement on ne constitue pas de gouvernement pour forcer François Mitterrand à partir et provoquer une élection. Bon. Alors c'est compliqué sur le plan institutionnel, mais il y a un moment où il faut quand même... Bon. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Mais il y a toute une pratique là aussi, enfin ça rejoint nos échanges de tout à l'heure, et d'il y a un an, il y a sans doute une pratique institutionnelle aussi à réinventer qui va de pair avec un nouveau projet politique au fond.
Un nouveau projet politique dont l'essence doit être de ramener le pouvoir plus près du peuple.
Voilà.
Parce que cette espèce de communauté de communes, de trucs, de machin, ça veut rien dire.
Ah, point sur lequel nous étions déjà en désaccord l'autre fois, et ça perdure. Mais c'est bon signe.
Je veux dire, moi, pour moi, l'homme politique que je connaissais depuis toujours, c'était le maire.
Oui.
Et lui, on allait le voir et on lui disait, dites-le, ça ne marche pas chez moi.
Mais bien sûr, mais vous voyez bien que dans une France qui est... je parle de la France rurale, c'est celle dans laquelle je vis et j'ai exercé... mes responsabilités. Alors, ça peut faire sourire nos auditeurs d'entendre que Rambouillet est une commune rurale, mais je vous garantis que c'est le cas. Dans les villages autour de Rambouillet, on trouve 600 habitants, 800 habitants dans les champs, dans la forêt, enfin, on se croirait au fin fond de la province, hein, sans être péjoratif en aucune manière. Depuis très longtemps, les maires traitent de manière conjointe, collective, les questions de l'eau. Volontaire. Les questions de l'eau, des transports. Évidemment qu'ils essayent d'équilibrer l'avenue des entreprises, enfin quand ils s'entendent à peu près, ce qui est quand même dans beaucoup d'endroits, c'est quand même plutôt le cas. C'est pas qu'il n'y ait pas de rivalité, mais enfin globalement. Donc au fond, la pratique de la solidarité intercommunale, elle existe, elle s'est mise en place, on partage des écoles, on partage des salles de sport, des salles des fêtes, des tas de choses, les communes partagent des tas de choses, des ressources naturelles, bref. Les groupements de communes, ont ce grand avantage d'avoir fédéré ces initiatives-là, cette solidarité. Et ça...
Mais est-ce qu'en les fédérant, on les a pas aussi fiers ?
J'ai pas l'impression. Il y a une façon de gouverner, en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de gouverner celle dont j'avais la charge pendant de nombreuses années. Il y a une manière de gouverner des groupements de communes en laissant aux maires les leviers dont ils ont indispensablement besoin pour gouverner la commune. Qu'est-ce que c'est ? Le droit des sols, l'aménagement de l'espace...
Oui.
Les affaires scolaires, parce que c'est pas le président d'Interco qui va parler aux parents de la porte de la salle de classe qu'il faut repeindre ou des trucs comme ça. La vie associative, éventuellement la vie sportive, ça va de pair quand c'est possible. Et franchement, tout le reste, on peut pas aujourd'hui traiter au niveau d'une commune parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop volumineux, parce que les demandes des citoyens sont de temps en temps complètement... et il faut pouvoir traiter quand même, parce que sinon bon... Donc il reste une possibilité de le faire, mais c'est une question de gouvernance, et là où je vous rejoins, d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit aussi dans mon livre l'an dernier, il faut revoir ces lois de coopération intercommunale en se fondant plutôt sur la subsidiarité que sur la contrainte, c'est-à-dire le fait de
la carotte plutôt que le bâton.
Voilà, exactement. Alors, en France, la carotte, ça marche moyennement. Il faut reconnaître que c'est des choses qui sont difficiles à manier. Mais voilà, il y a quelque chose de... N'éteignons pas, en tout cas, cette solidarité, parce que là aussi...
Ouais, elle existera toujours.
Oui, mais je pense que c'est bien de la formaliser, parce que Là encore, lorsque, si on veut déployer des politiques publiques intelligentes, je parle de celles qui sont nécessaires, et il y en a qui sont nécessaires.
Absolument.
Des grands investissements, par exemple, des choses comme ça.
En quelque sorte, l'aménagement du territoire, voilà. On peut légitimement se demander si c'est pas un peu un privilège régalien.
Ben, ça devrait.
Ça devrait, en tout cas, c'est pas dans les quatre officiels.
Ça devrait. C'est quand même plutôt le cas, parce qu'en réalité, il y a un tel pouvoir de regard de l'autorité de l'État sur les plans d'aménagement des sols qu'en réalité, l'État met son poids dans cette affaire. Indirectement, mais il regarde quand même de très près. Puis les procédures, etc. Bon, donc c'est à peu près fait. Et franchement, à part quelques couacs, mais il y en a toujours, enfin globalement, on peut considérer que en termes d'utilisation de l'espace, les choses sont plutôt bien faites, enfin de ce que j'en ai pratiqué en tout cas. Mais ça fait partie de ce projet politique qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est qu'au fond, il faut des relais aussi pour l'État en haut et puis les gens en bas qui attendent, qui est entre les deux, rien.
Donc, on s'est demandé à un moment même si c'était pas le but de cette espèce d'oligarchie qui nous gouverne, d'avoir un État très fort et puis un monde complètement émettien en dessous qui n'avait plus aucune solidarité.
Mon cher Charles, c'est le libéralisme que vous n'aimez pas.
Le libéralisme que j'aime, si vous voulez, c'est celui qui a permis toutes les associations. Lisez Tocqueville, aux États-Unis, il y avait des associations qui se créent, qui se défendent.
Oui, c'est bien pour ça que je parle du libéralisme que vous n'aimez pas, c'est-à-dire celui qui veut isoler les individus pour les mettre à la merci de la puissance de l'État ou des marchés.
Des marchés.
D'ailleurs,
c'est
les deux.
Les deux.
C'est la Chine.
Donc, oui, en tout cas, c'est plus. Oui, ça a été beaucoup le communisme ou le nazisme. C'était pas très différent. Donc ça veut dire que cette espèce d'effort pour redonner la parole au peuple, il faut qu'il l'ait souvent et que, à la limite, qu'il y ait des tas de choses qui soient décidées presque au niveau référendaire, aussi au niveau de la région ou de la ville ou de la commune.
Alors faut faire attention. Il y a un écueil.
Dites-moi.
Celui de la répétition. Il y a un écueil. On n'a pas la tradition helvétique.
Mais ça s'inquiète. Les Helvétiques, vous savez, moi j'ai des copains qui votent en Suisse, qui étaient français, et ils aiment beaucoup.
Mais je dis pas le contraire. Ça.
Les Suisses, c'est pas des Français. C'est une idée que je ne reçois pas, parce que les Français ont été rendus idiots par leur gouvernement. Si on a un gouvernement intelligent, ils se sont.
On n'a pas cette tradition d'être sollicité tous les quatre matins pour voter sur des choses extrêmement diverses. Il y a l'effet de répétition, à quoi faire attention. Deuxièmement,
vous avez l'effet de répétition maintenant avec votre ordinateur, vous votez oui ou non avec un système qui est bien encodé, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer.
Je me méfie énormément des systèmes qui ne sont pas de moi. Je suis un partisan du vote papier dans le bureau de vote. Ah non.
Je suis d'accord avec vous.
Je dis ça,
mais j'en pense pas un mot.
Ah non,
je
retire
ce que j'ai dit. Non, le vote papier.
C'est à l'ancienne, vous savez.
Je suis d'accord, on peut les compter.
Le mec vient, on les compte. Exactement.
On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà, il y a des tas de votes qui sont apparus comme ça, un peu curieusement.
C'est ça, exactement. Donc je ne veux pas de ça pour mon pays. On reste à l'ancienne et bon, c'est.
Je vous arrête, vous ne voulez pas de ça pour votre pays. Mais alors, le passeport, là, pour vous savez, le passeport Covid qu'on a tous.
Le pass sanitaire.
Le pass sanitaire, voilà. On va en avoir besoin pour aller voter?
J'espère que non. Mais je ne crois pas un mot des promesses du gouvernement en la matière, si c'est là-dessus que vous voulez me faire.
Je veux pas parler du Covid, je dis simplement.
Non, mais.
C'est comment on va faire
Ils ont promis qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire au-delà du 15 novembre. C'est pas vieux, ça date de cet été. L'été dernier, en défendant la loi qui s'appelle maintenant loi du 5 août, donc c'est pas si ancien, le ministre de la Santé expliquait que, bien entendu, le pass sanitaire s'arrêterait le 15 novembre. Vous voyez bien que ce matin, en commission mixte paritaire, les sénateurs et les députés discutaient de la prolongation jusqu'au 31 juillet. Donc c'est très important. Donc après les élections.
Ça pose pas un problème?
Alors, le point de savoir si le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet est un problème différent de savoir s'il sera obligatoire pour aller voter, car aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin sans passe sanitaire. On est d'accord. Il est parfaitement possible. Je suis contre le passe sanitaire, moi, de manière résolue. Et à chaque fois que je peux l'attaquer au Conseil d'État, d'ailleurs, j'y vais. Et on gagne, puisque vendredi dernier, par exemple, on a gagné. On a fait rétablir les autotests comme valides pour obtenir le passe sanitaire. Parenthèse fermée. Donc je suis absolument contre ça, bien sûr. Néanmoins, en droit, vous pouvez dissocier les deux. Vous pouvez très bien dire, les bureaux de vote font partie des lieux qui sont accessibles sans passe sanitaire, il n'y a aucun problème. C'est exactement le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit de rajouter les bureaux de vote ou de ne pas inclure les bureaux de vote dans la liste des lieux auxquels on n'accède qu'avec un passe. C'est parfaitement possible. Donc si en l'état, aujourd'hui, comme au municipal ou au territorial.
Ils ne vont pas remplacer ça pour les vieux, etc., par un vote par correspondance, ce qui serait un peu inquiétant.
Alors, je pense que c'est trop tard. D'ailleurs, tant mieux.
Parce que, je crois que c'est Pompidou qui avait fait annuler les votes par correspondance tellement il y avait de fraude.
Je ne connais pas cette anecdote, mais ça existe pour les élections professionnelles. Le vote par correspondance existe en France.
Oui,
Je suis chef d'entreprise comme vous. J'ai reçu il n'y a pas longtemps pour la Chambre de commerce de Paris. Les élections à la Chambre de commerce de Paris, donc j'ai rempli mon devoir. C'était d'ailleurs pas vote électronique, d'ailleurs, mais vote électronique, ça, c'est pas tout à fait de la même nature que la désignation de ses représentants, même si j'ai tout le respect du monde pour les organismes consulaires et les fédérations professionnelles, qui sont très importants, qu'il faut maintenir aussi dans le pays. Mais au fond, non, je pense que c'est trop tard pour le vote par correspondance, et tant mieux. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'en est rendu compte lui-même. Il a annoncé il y a quelques semaines que. Le système était à l'étude, mais qu'on n'aurait pas le temps de le mettre au point pour les scrutins de 2022. Mais ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Vraiment.
Ça, c'est vraiment une saloperie, parce que c'est là que se passent toutes les fraudes.
C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Alors maintenant, essayons de regarder un petit peu devant. On a cette période électorale qui arrive. Bon, la gauche est dans un état lamentable. Hidalgo...
Historiquement bas.
On ne sait même pas si elle fera les 5%, je ne sais pas.
Non, on ne sait même pas si elle va aller au bout, parce que si elle se maintenait à 4 et quelques dans les enquêtes d'opinion en janvier, le Parti Socialiste va certainement lui demander d'étler. On ne vend pas deux fois la rue de Solferino, vous savez, c'est le moment où...
Puis ça va coûter cher.
C'est pour ça.
Donc c'est une question d'argent. Donc à droite, si vous voulez, entre Pécresse, Barnier et Bertrand... c'est un petit peu attristant, non? Enfin, je sais pas, moi, ça ne peut pas dire que ça m'excite.
Ben, écoutez, ce serait... le président du Sénat, Gérard Larcher, dans l'édition du journal du dimanche de la semaine d'avant, donc il y a 10 jours, il y a 9 jours, a résumé en une phrase la situation. Éric Zemmour est le miroir des renoncements de la droite depuis 40 ans. Fin de citation, tout est dit.
On peut s'arrêter là.
Et la situation est parfaitement expliquée.
Mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est compte tenu de la détestation dont semble souffrir M. Macron chaque fois qu'il sort, il y a des gens qui veulent lui mettre des claques ou je ne sais pas où dans le public, comment est-il encore à 25%?
Ah mais... il y a beaucoup d'acteurs du monde économique qui sont tout à fait ravis, à ma grande surprise. Hein. Parce que le bilan économique de Macron, quand on gratte le vernis, ou quand on va, c'est le décor de Potemkin, c'est les maisons de carton avec, alors devant les gens agitent des fleurs et applaudissent et chantent de joie, puis quand vous passez derrière, ils crèvent de faim et ils sont en guenilles, et voilà. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est ça. Dire ça a l'air présentable, quand vous creusez un peu la réalité, c'est compliqué.
Surtout que vous allez un peu en province, enfin les gilets jaunes qui dont le sort s'est encore détérioré. Hein.
Oui, et puis au-delà de ça, même sur les annonces, enfin le 300 milliards de garantie d'État pour les entreprises françaises, qui n'en est débloqué que la moitié parce que beaucoup d'entreprises sont trop endettées pour y recourir. Donc en fait, c'est pas 300 milliards, c'est 150. Les aides européennes, pareil. Les pseudo-réformes, la loi Pacte qui devait révolutionner l'économie, à part le fait qu'il y a des entreprises à mission désormais et qu'on peut faire entrer les salariés dans les conseils d'administration, dites-moi ce qu'il y a d'autre, il n'y a rien. Un peu sur la transmission d'entreprises. C'est vrai, le reste, il n'y a rien. Donc, ce bilan est affreusement plus dramatique que l'image qu'en donne le gouvernement et l'image qu'en ont un nombre incroyable de chefs d'entreprise qui sont ravis. Donc, ils continuent d'alimenter la mécanique. Deuxièmement, beaucoup de seniors sont contents, ils sont persuadés que leur vie a été sauvée par le président avec la crise sanitaire. Ah ben, bien sûr. Mais il y a des gens qui croient, le président de la République, quand il dit à la télévision... Je vous protège. Je suis là pour protéger votre santé. À quoi on devrait dire, mon médecin est là pour protéger ma santé, mon épouse est là pour protéger ma santé, mes amis, le président de la République, non.
Mes enfants, mes petits-enfants.
C'est ça, mais le chef de l'État, non, sûrement pas, non. Il ne protège rien du tout. C'est pas son métier, d'ailleurs, on ne lui demande même pas. Bon. Et il y en a qui le croient. Et il y a un socle qui se constitue, auquel s'ajoutent tous les gens qui regardent le reste du paysage politique, et qui disent d'ailleurs, avec juste raison, en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines, si c'est pas lui, c'est qui?
Voilà, c'est la veille.
Et c'est vrai que si c'est pas lui... C'est quand même difficile, donc bon. Je vous trouve sévère avec... il se trouve que je connais bien Xavier Bertrand, moi j'ai travaillé avec lui sur plusieurs dossiers pendant qu'il était ministre, et j'étais rapporteur au banc d'un certain nombre de textes qu'il a portés, j'étais parlementaire en mission auprès de lui, donc je connais à la fois sa fibre sociale, au bon sens du terme, et sa très bonne connaissance du monde du travail et des partenaires sociaux, ce qui est très utile quand on a discuté à piloter le pays.
Ah, pour être ministre du Travail, je dis pas le contraire.
Et il y en a pas.
Mais pas pour être président.
Bah, ça peut servir quand même, vous savez. Parce
ah, oui, que mais ça ne peut pas être que ça.
Non, bien entendu, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais cela dit, c'est la réserve, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, le discours change depuis quoi, 6 mois, 1 an. Et ils considèrent aujourd'hui comme de leur patrimoine presque historique et reçu au berceau des choses qu'ils ont abandonnées pendant 40 ans. Ils font comme s'ils ne l'avaient jamais oublié, jamais, et qu'ils n'avaient jamais été en situation de faire ce qu'ils disent aujourd'hui. Et je pense que le peuple s'en souvient.
Le peuple a une mémoire très longue. Alors, c'est comme les éléphants.
Et quand il en manque, les réseaux sociaux en ont pour lui, parce que, comment dire, maintenant, il y a des outils pour aller chercher les trucs, les sortir, etc. Bon. Donc. Je vois que... je sais pas ce qui va sortir du Congrès des Républicains, c'est très difficile à dire. Je pense depuis longtemps que c'est Xavier Bertrand qui sera le candidat des Républicains, parce que je pense que c'est le seul qui puisse battre Macron dans un second tour. Après, pour le reste, c'est, vraiment, c'est très difficile. C'est très très difficile. Très difficile. Mais...
Et puis là, comme c'est les fédérations qui vont voter en fonction des inscriptions, j'imagine que les inscriptions, ça doit y aller en ce moment.
C'est fini, là, c'est clos depuis quelques jours, je crois, je ne sais plus quand.
Enfin, oui, non, enfin, je veux dire, ça a dû, la planche à billets a dû fonctionner, là.
Ah non, mais ça...
vous quand vous quand le Parti vous Socialiste, entre Martine Aubry et Ségolène Royal, ça y avait été, là.
Quand vous laissez des professionnels s'occuper des affaires, ils les traitent, hein, vous savez. Donc, s'il faut passer des coups de fil, faire adhérer les gens, etc., il y en a qui savent faire ça très bien. Hein.
Ils,
s'en privent pas, d'ailleurs. Oui, ils ont récupéré une trentaine de milliers d'adhérents, je crois, en quelques semaines. Ils ont redépassé le seuil des 100 000. Ce qui en fait, d'ailleurs, de manière peut-être un peu surprenante, mais le plus gros parti de France, et de loin.
Et de loin, oui, bien sûr.
C'est dire...
Alors, donc, parlez-moi un petit peu alors de ce qui va se passer avec ce bon front Rassemblement National, comment ça s'appelle, parce que lui, c'était le piège de Mitterrand, et Zemmour est en train de faire sauter le piège de Mitterrand, c'est-à-dire de...
Alors le piège de Mitterrand, oui, le Rassemblement National, non. C'est tout là. Vous savez, le chasseur que je suis, c'est d'expérience que pour abattre les gros cochons, quand on parle des sangliers, il faut souvent plus d'une balle.
Oui.
Souvent plus d'une balle.
Mais ça fait plus longtemps qu'il en prend des balles.
Oui, enfin, il est en bonne forme. Hein, ça, c'est les blessures. Après, ils vont guérir dans la forêt tout seuls, puis ils se repointent l'année d'après. Bref. Non, je pense que ce serait illusoire de penser que les formations politiques que sont le Rassemblement National et les Républicains, si mal en point soient-elles, et les Républicains sont beaucoup moins mal en point que l'impression que ça donne en réalité, ce serait illusoire de considérer soit que elles sont dans une fragilité telle qu'elles vont exploser en vol dans les temps qui viennent, soit que cette même fragilité pourrait provoquer spontanément des exfiltrations qui rejoindraient tel ou tel candidat, et par exemple celui qui pourrait être cher à notre cœur et à nos esprits. C'est une illusion de croire ça, parce que c'est faire peu de cas, et les situations sont différentes de mon point de vue entre les Républicains et le Rassemblement National. Au Rassemblement National, si curieux que ça puisse paraître, enfin c'est curieux, c'est pas si curieux que ça, la fidélité à l'engagement est une valeur. Et les gens,
oui,
même ceux qui sont absolument convaincus que Marine Le Pen ne gagnera pas l'élection, et ils le sont depuis longtemps, et rien ne les fera changer d'avis, ça n'empêche
qu'ils vont aller voter pour.
Que par fidélité à la famille, à leur propre conviction, à leur propre engagement, ils continueront d'aller voter pour. Et ben ça se respecte. Qu'est-ce que vous voulez que
je dise ? Je serai le dernier, le commandant.
Et, quant aux Républicains, là c'est un peu différent. Même si les élections législatives l'an prochain se passaient mal pour eux, il restera 80 députés, 100 députés comme maintenant. Ils auront encore 150 sénateurs, 70 départements, 6 régions, je ne sais pas combien de villes de plus de 10 000 habitants en France. Pour un parti Morimont, ça ne va pas si mal que ça quand même. Alors, est-ce que ça les rend capables de définir une ligne politique nationale et de gagner l'élection nationale pour autant ? Je pense que non.
Ils ont remplacé les radicaux socialistes, quoi.
Oui, ou...
C'est devenu le parti du gouvernement local, quoi, c'est...
C'est ça.
Mais ils n'ont plus rien à dire.
Un de mes amis, qui est un élu républicain lui-même, d'ailleurs, dans une des grandes régions de France, emploie, à cette occasion, pour son propre parti, l'expression de syndicat de gestion d'intérêts locaux. Mais c'est très bien géré, hein. Bah, pour le coup, alors là, les affaires sont tenues et...
Bon. Oui, c'est ça.
Mais... le fait de convaincre de la pertinence de l'offre politique sur le plan national, ça c'est plus difficile. Et ce sera durablement plus difficile, parce qu'encore une fois, il y a ce silence de 40 ans. 40 ans de silence. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. 40 ans de silence
pour lequel
ils n'ont pas traité les sujets que les Français attendaient qu'ils traitassent. Et aujourd'hui, presque ils se réveillent en disant « Ah mais mince, on aurait dû... » Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit, « Pas de bol, il fait la course devant nous. » Il fait la course devant nous, pour le moment. Parce que tout ça dans les...
Tout ça peut bouger.
Tout
ça peut bouger. Donc, on est dans une période intéressante, et je vais terminer par une petite remarque, presque, puisque vous et moi, nous sommes chrétiens et qu'on ne s'engage pas. Vous savez, on dit toujours que les voies de l'esprit sont impénétrables. Voir le débat politique renaître en France, à droite, à cause d'un juif d'Afrique du Nord, je trouve ça à pleurer de rire. C'est quand même le truc le plus inattendu qui pouvait arriver à ce pays.
C'est l'héritage judéo-chrétien français, après tout.
Absolument, mais ça ne me gêne pas du tout. Mais je trouve ça à pleurer de rire, parce que c'est à peu près aussi improbable qu'une bergère en Lorraine, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des trucs qui arrivent comme ça. On se dit quand même, c'est bizarre. Il n'y avait pas un type de Versailles ou de la Franche-Comté qui aurait pu dire ça, mais non. Le seul qui pouvait le dire, c'était lui.
Probablement.
Parce qu'il était juif et parce qu'il était d'Afrique du Nord.
Probablement.
Je trouve ça très, très gai.
Bah,
ça...
Il y a une forme d'ironie de l'histoire, comme souvent d'ailleurs, hein. c'est, ou de la providence, c'est comme oui. On veut. Je pense maintenant qu'il est une forme de croisée des chemins désormais. D'ailleurs, sa tournée s'appelle la croisée des chemins, c'est sans doute pas pour rien. Là, il a réussi à consolider sa base électorale naturelle. Son noyau dur électoral, maintenant, on peut considérer qu'il l'a.
Oui.
Et il sait pourquoi il est là, et il bougera sans doute désormais assez peu.
Assez peu.
C'est grosso modo 2/3, 70% de ses intentions de vote, donc on va dire ça fait 10, 11, 12. La réalité certaine sur laquelle il peut s'appuyer. Maintenant, la question est, comment est-ce qu'on progresse à partir de ces
moments ?
Et on a tous les symptômes d'une entreprise dont la croissance est, je mettrai des guillemets, à trop rapide. Je mets des guillemets à trop.
Oui, oui, c'est tout à fait.
C'est-à-dire que il y a un moment où on n'est pas capable de délivrer assez de produits pour satisfaire le marché. Alors, tant qu'on en sort, on en sort, on en sort, on en sort, on en sort. Et puis, il y a un moment où si on ne peut pas continuer d'alimenter cette croissance, de solidifier son organisation pour répondre à ces besoins nouveaux qu'on sollicite et qu'on arrive à créer et rejoindre d'une certaine façon, la mécanique s'arrête. Mais
c'est là où il aura besoin d'alliance.
Il aura besoin d'alliance, il a besoin de vieux, il a besoin de pros, il a besoin de vieux routiers de la vie politique nationale, il a besoin de toutes ces choses-là. Et dans le monde où nous sommes, il y a une espèce de mélange dans le monde politique désormais, ce qui le rend, pour des gens comme moi, parfois un peu étonnant. Une espèce de mélange de modernité absolue et de vieille tradition qui fait que c'est une espèce d'objet mal conformé. Moi qui suis, comme vous savez, un philosophe nourri à l'ancienne, des auteurs grecs médiévaux et des auteurs classiques, je me dis de temps en temps, au fond, ce monde-là qui est en train d'émerger sous mes yeux, soit j'y comprends rien du tout, mais rien du tout. Auquel cas, il faut que je prenne des décisions sur mon propre emploi du temps assez rapides, parce que sinon je vais me... Bon. Soit quand je relis ce que Platon, Aristote disent de la vie politique, Machiavel, quelques autres, des théologiens médiévaux, quelques grands auteurs comme ça, et je me dis, mais finalement, c'est d'une actualité absolument furieuse, tout ce qu'ils nous racontent. Donc, cette constance de la nature humaine, elle nous indique qu'il y a des invariants, y compris dans la manière de mener une campagne politique et de délivrer un message. D'ailleurs, il me plaît de croire ça, car je suis un conservateur, donc moi ça me plaît qu'il y ait des invariants, je serais très gêné s'il n'y en avait pas.
Mais il y a quelque chose qui me surprend quand même, c'est que partout où je vais, il y a une détestation de la classe politique et des médias qui est inimaginable.
Mais ça c'est vrai, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles...
C'est ce qui s'est passé avec Trump. Trump, il a été élu à cause de cette détestation.
Ah oui, alors, à cette réserve près, qu'il a été investi par les Républicains. Le Parti Républicain l'a investi, donc il avait derrière lui Alors, pas toute la machine, parce qu'il y en a qui
étaient beaucoup qui l'ont trahi.
Qui n'étaient pas très très contents de le voir candidat.
Non, puis il y en a beaucoup qui l'ont trahi, qui l'ont mis des bananes, qui l'ont tout fait pour le faire.
C'est vrai, mais n'empêche qu'il en restait suffisamment pour quand même.
Ils ont été soutenus à peu près comme Chirac a soutenu Giscard, quoi.
Oui, un peu mieux que ça, un peu mieux que ça quand même, parce que sur les 17 candidats de départ, il s'est 17, souvenez-vous.
Oui, oui, oui.
17 candidats de départ, il y a quand même un gros 40% qui lui a apporté une aide.
Bon. Oui, mais
c'est pas. Voilà. Il y a, je crois, un phénomène de génération aussi dans cette campagne qui est intéressant, dans la campagne d'Éric, enfin dans l'essor d'Éric Zemmour, qui est assuré par la radicalité que la jeunesse porte, parce qu'elle est jeune d'une certaine façon, y compris dans la forme d'expression. Et je pense que les jeunes générations, d'ailleurs comment ne pas les comprendre au fond, considèrent que la génération qui est la nôtre est responsable de l'état de détresse totale dans laquelle les jeunes se trouvent eux-mêmes.
Bien sûr.
Et la dernière chose qu'ils ont envie de voir venir auprès du candidat dans lequel ils mettent leur espérance, ce sont d'autres gens de cette génération.
Bien sûr que non, mais ils ne veulent pas arriver des gars de mai 68. Ils n'ont pas besoin de code manite. Hein.
Non, mais d'une certaine manière, on est embrassé un peu dans le même rejet, même quand on est aux antipodes de code manite, ce qui est mon cas comme le vôtre du reste.
Oui. Donc
ils ont du mal avec ça. Et c'est là que, je pense, la pédagogie du réel, parce que le réel est pédagogue, si on accepte de le regarder comme il est, va leur indiquer que on peut pas passer de 15 d'intention de vote, qui représente 10, 11, 12 de vote réel, à 20 si on veut aller au second tour avec quasiment la certitude, puis de 20 à 51. Ça peut pas se faire sans un mélange de genre, un mélange de génération, un mélange de compétences, un mélange, etc., sans une espèce de... Et une professionnalisation de l'organisation, parce que tous les acteurs disent ça, tout le monde voit ça, donc voilà. On est dans la phase encore de pré-campagne, on attend impatiemment sa déclaration de candidature, en tout cas c'est mon cas,
oui.
Parce que je pense que ça change quelque chose de dire qu'on est candidat versus la période pendant laquelle on ne l'a pas encore dit. Et avec l'annonce de la candidature, ben, il y a un certain nombre d'exercices. C'est comme le patinage artistique. Si vous faites les Jeux Olympiques, il y a des figures imposées.
Voilà.
Vous ne pouvez pas gagner avec les figures imposées, mais vous pouvez perdre le titre.
C'est tout à fait vrai.
Voilà. Bon, donc vive le patinage artistique.
Vive le patinage artistique comme méthode de sélection des élites.
C'est ça.
Voilà. En tout cas, moi, je passerai mes parterres à quatre pattes, donc... ça confirme ma décision.
Je ne suis jamais monté sur des patins à glace, donc je ne sais même pas ce que je dis.
Mais écoutez, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis on essaiera de faire ça de temps en temps, parce que les 6 mois qui viennent vont être absolument cruciaux. Parce que j'aimerais terminer, quoi que soit le résultat de l'élection, je pense que c'est sans doute l'élection la plus importante depuis 1945. Parce que c'est grosso modo la dernière chance.
Ben on n'est pas loin de ça. Même si avec la France, il ne faut jamais désespérer de rien.
Bien sûr, mais quand même, il me semble qu'elle est importante, celle-là.
C'est vrai. Elle l'est.
Il ne faut pas se cacher.
Incontestablement, elle l'est.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Ça fait plaisir.
Et merci aux auditeurs de leur attention.
Attention. Et puis, vous mettez sur vos... Vous posez des questions, tout ça. Vous savez qu'on y répond. Et puis, vous n'oubliez pas de cas échéant. J'oublie toujours de le dire, mais aujourd'hui, je ne l'oublie pas. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur des boutons, je ne sais pas où, pour que vous inscrire sur notre channel. On est déjà à 121 000, je ne sais pas combien. C'est bien, mais continuez.